Moi, c'est ainsi, je vis très partagé entre deux univers, le monde dans lequel vous vivez vous aussi, avec tout ce qui s'y passe, hein. Donc tout ce qu'on a déjà évoqué, je ne vais pas le reprendre. Et puis, parce que j'ai commencé d'écrire la suite de Mephibosheth, je passe une bonne partie de mes journées à cette époque-là aussi. Donc, encore plus que d'habitude, si je vous croise et je ne vous dis pas bonjour ou je ne vous vois pas, je ne suis pas fâché. C'est que je suis... Hein, la lumière est là, mais il n'y a personne dedans. Ou plutôt, si, il est très dedans, quoi. Et puis, je suis dans toute la période avec David, Uri, Bercheba, tout ce bazar-là, là, hein, cette trahison de David. Et puis, le mélange des deux choses m'a amené à une réflexion que je trouve qui est intéressante. Ce n'est pas pour nous dire ce qu'il faut faire dans la situation mondiale que nous vivons aujourd'hui, mais peut-être pour exposer un mécanisme qui nous aide à comprendre pourquoi on se retrouve dans ces situations-là à beaucoup de niveaux différents. Hein, parce que ce qui est vrai dans les relations entre les peuples, c'est vrai dans les relations entre individus, c'est vrai dans les relations dans les familles, c'est vrai dans les relations dans les églises, c'est vrai dans la relation avec Dieu, dans la relation avec nous-mêmes. Donc l'idée, c'est de dégager un principe là, qui, appliqué à la situation mondiale, a conduit à ce qu'on vit aujourd'hui, mais qui explique aussi l'état dans lequel sont les communautés aujourd'hui et beaucoup d'autres choses, en essayant de garder ça simple. Et puis, l'idée générale, c'est l'idée de la bombe à retardement. Hein, vous savez, quand on allume une bombe, alors les vieilles d'avant, là, où il y avait une mèche avec une allumette, hein, entre le moment où on allume, la mèche brûle, alors bien sûr, ça dépend de la longueur de la mèche, hein, mais il se passe un certain temps. Et puis après, ça explose. Il y a aussi au jour des mécanismes à retardement beaucoup plus sophistiqués, avec un réveil, avec ci, avec ça, avec autre chose. Ça me paraît une évidence que ce qui se vit dans le monde aujourd'hui, alors maintenant on doit gérer une crise actuelle, il faut la gérer au mieux, etc., chacun a ses idées, mais c'est juste le résultat de choses qui se sont passées il y a longtemps, très longtemps ou très longtemps. Et si on ne comprend pas ces choses-là, on va essayer d'éteindre le feu, là, on ne sait pas trop comment, mais sans réaliser qu'on est en train de continuer de fabriquer les mêmes choses qui se reproduisent. Je pensais à ce verset dans Osée 8, 7. Et il est connu, même chez les non-chrétiens, sous forme de proverbe. Qui sème le vent récolte la tempête. Vous connaissez ce... Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est dans la Bible. Sauf que dans la Bible, c'est pas. C'est, puisqu'ils ont semé le vin, ils moissonneront la tempête. Et j'aimerais vous lire quelques phrases que Jésus a dites quand il était sur terre. C'était suite à une dispute entre ses disciples. Qui va être le chef, hein? C'est qui le chef dans notre équipe de disciples? Ça, c'est une discussion très humaine. Dès qu'il y a plus de deux humains ensemble, il faut savoir qui est le chef. Alors il y a des tas de méthodes différentes, hein, pour savoir qui c'est le chef, mais bon. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands font, excusez-moi, les vieux, hein, tu disais quoi, ami, font sentir leur autorité. Il n'en sera pas de même parmi vous. Au contraire, quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Je ne vais pas prendre le temps ce matin de vous développer les mots grecs pour abuser l'autorité, tyrannie, machin, tout ça et tout. C'est intéressant, hein, mais on sait ce qu'ils veulent dire. Utiliser l'autorité pour faire à des gens ce qu'ils n'ont pas envie de faire. C'est comme ça que ce monde fonctionnait à l'époque de Jésus, c'est comme ça qu'il fonctionne depuis qu'Adam et Ève ont fait le mauvais choix, et c'est comme ça que cette planète fonctionne. Il y a des gens qui ont la force, quand je dis la force physique, matérielle, par l'argent, par l'armement, etc., de faire à d'autres des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, dans un but qu'ils pensent être intéressant pour eux, donc ceux qui sont en haut, hein. Et c'est comme ça que le monde fonctionne partout, quel que soit le système, on en change, on en met un autre, ça revient toujours au même. Hein. Capitalisme, communisme, les religions qui se transforment en politique, le christianisme en tant que système, l'islam, même système. Celui qui est le plus fort prend le pouvoir, celui qui a la possibilité de contrôler les autres les contrôle et il leur fait faire ce qu'il a envie qu'ils fassent. Hein. Cette façon de fonctionner, dans le discours de ce matin, moi je vais l'appeler, attention, hein, mais, c'est le système de fonctionnement de l'enfer. Hein. Pour ceux qui connaissent Le Paradis perdu de Milton, c'est un poète du XVIIIe siècle, qui a écrit sous forme épique, il a raconté la lutte entre Lucifer et ses anges qui se révoltent contre Dieu, et puis etc. Et il y a cette phrase, c'est traduit en français par Chateaubriand, rien que ça. Hein. Et à un moment, il prête cette phrase au diable qui dit, donc c'est Satan, l'ennemi qui parle, qui dit « Mieux vaut régner en enfer que servir au ciel. Hein. »« Mieux vaut régner en enfer que servir au ciel. » Ça, c'est le fondement de l'enfer. Hein. Une société où ce qui compte, c'est de dominer pour contrôler les autres. Dans la Trinité, ce qui est la société de Dieu initiale, hein, les trois en un, là, ce mystère qu'on ne comprend pas, il y a une relation qu'on nous, on ne peut pas comprendre, qui est de soumission volontaire aux autres. J'en profite pour préciser que la soumission n'est une vertu divine que lorsqu'elle est volontairement choisie pour de bonnes raisons. Hein. Quand on dit « il faut les conduire à la soumission », c'est un non-sens. Ça, c'est « conduire à la soumission », ça veut dire « dominer ». La soumission, c'est un acte volontaire, libre de quelqu'un qui a compris qu'il avait le choix et qui décide de se soumettre à quelqu'un d'autre parce que cette personne l'aime et puis qu'elle sait ce qui est bien. Hein. Et la Trinité fonctionne comme ça. Le Père, le Fils et l'Esprit sont soumis les uns aux autres. C'est pour ça qu'ils vivent en harmonie, mais pas parce qu'il y en a un, le Père, qui est plus fort, qui oblige le Saint-Esprit et le Fils à faire ce qu'ils veulent, et puis le Fils, qui est un petit peu plus fort que le Saint-Esprit, oblige le Saint-Esprit à faire ce qu'il veut, puis le Saint-Esprit, qui n'a plus personne, il a fait les anges pour leur crier dessus, puis les anges, ils ont fait les hommes pour dominer dessus, et puis après, nous, on a fait les chiens pour... Hein? Non, c'est pas comme ça. Hein? Dans la société de Dieu, l'autorité vient par le service. Pourquoi le Père est le plus grand? C'est lui qui donne tout, tout vient de lui. Hein? Le Fils est grand parce qu'il se soumet volontairement au Père. Le Saint-Esprit est grand parce qu'il est là pour servir le Père et le Saint-Esprit. Ça nous dépasse, mais c'est une société basée sur la soumission, la vraie. Hein? Je choisis de m'abandonner à l'amour de l'autre. C'est ça la soumission. Le diable, donc vous savez que le mot diable, hein, diabolos, celui qui se met entre, celui qui sépare. Hein? C'est pas son nom, on ne sait pas comment il s'appelle le diable, s'il avait un nom. Hein. Mais cette créature spirituelle qui a été créée par Dieu, mais qui a décidé que ce fonctionnement-là n'était pas le bon et qu'il y en avait un autre qui était mieux. C'était celui du fort qui domine sur le faible. Celui qui est capable de prendre le pouvoir, il le prend et puis il faut qu'il y reste jusqu'à ce que un plus fort lui prenne la place. Hein. C'est comme ça que tout fonctionne sur notre terre, y compris parce qu'il a été touché par le péché, le monde animal, hein, ce qu'on appelle la loi de la jungle. Regardez les reportages animaliers, c'est pas beau. Hein. Le gentil lion qui a été à la tête de la meute pendant une partie de sa vie, maintenant il est un peu faible, il a l'arthrose, il commence à être fatigué. Est-ce que les autres lions lui disent « on va te payer l'AVS, on va te mettre à la maison de retraite » Qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'ils peuvent, les lions un peu plus jeunes, s'ils peuvent, ils le bouffent. Littéralement, s'ils peuvent, ou en tout cas, ils le chassent et ils meurent de faim. Et après, c'est les hyènes qu'ils mangent. Hein? Parce qu'avant, elles ne pouvaient pas, mais là, elles peuvent. Ce monde-là et le monde des humains fonctionnent de la même façon. Et Jésus fait le constat simplement en disant, vous savez comment ça se passe dans cette terre? Les grands dominent, les rois abusent de leur autorité, les tyrans, etc. Hein? Et malheureusement, on retrouvait ça dans les familles, et puis de nos jours dans l'église. Hein? Avec, il faut être fort, il faut obliger les gens, il faut qu'ils soient soumis. Non. Il faut que vous m'aimiez. Ça ne marche pas. Jésus vient, il sert, il donne sa vie, il ne retient personne, et vous, vous ne voulez pas partir aussi? Et là, il y a quelqu'un qui dit, où on irait? Tu as les paroles de vie. C'est ça la soumission. Il n'y a pas mieux, alors on te suit. Ok, alors vous pouvez me suivre. Je ne demande rien à personne, je fais ce que j'ai à faire. Et ça, c'est ce que Dieu voudrait, et l'Église devrait être l'endroit où cette façon de vivre est manifestée sur terre. La seule vraie alternative à ce monde de violence où on veut régner, on veut dominer. Quand on voit David, David a été un homme grand dans tout, y compris dans ses chutes. Il a commencé de cette façon-là. David, bah, c'était un petit berger, tranquille, il faisait sa vie, mais ce qu'il faisait, il faisait bien, il aimait. Il était heureux avec ce qu'il faisait, ça lui allait. Mais bon, il a l'occasion de faire autre chose, il apprend, il le fait, il devient un guerrier. Et pendant presque tout le début de sa vie, là, même quand il devient roi, c'est quelqu'un qui conduit par le service. Hein. Il y a quelque chose à faire, je vais le faire. Oh, on vient avec toi, on vient avec toi. Hein. Et il produit d'ailleurs chez les gens qui l'entourent des choses assez incroyables, ce qu'on appelle l'honneur, ce qui a donné naissance à l'idée de chevalerie à une époque, hein, quand c'était pas trop déformé. Hein. Des hommes, à un moment, David est quelque part là, et puis juste, il pense à haute voix. Hein. Et puis, David, c'était un poète, hein. C'est bizarre, hein. C'était un violin, puis c'est un poète aussi, ça peut aller ensemble. Il exprime un souhait très, très, très mélancolique. Ah, si je pouvais boire de l'eau de la source où j'allais avec ma grand-maman quand j'étais petit, parce que je ne peux plus y aller maintenant. Enfin, un truc comme ça, quoi. Et là, trois de ces hommes qui entendent de ça vont faire un truc complètement fou. À trois, ils vont aller affronter une ville remplie de gens armés pour amener une cruche d'eau à David, quoi. On se dit, mais il faut être fou furieux pour faire un truc pareil, quoi. Aller risquer sa vie pour amener une cruche d'eau à un bonhomme. Et puis lui, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de la boire, il offre un sacrifice à Dieu. C'est magnifique cette histoire. Moi, j'aime beaucoup cette histoire. C'est une de mes histoires préférées de l'Ancien Testament. Hein? Pourquoi? Parce qu'on voit comment fonctionne l'autorité par le service. David était devin. Il était prêt à mourir pour ses hommes. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour les servir. Et ça produit des gens qui ont envie, eux aussi, de le servir. Pas parce qu'ils sont obligés, mais parce qu'on aime tellement ce gars-là. Il est tellement super qu'on veut donner notre vie, nous aussi. Et ça fait des gens qui se servent les uns les autres. C'est magnifique. C'était l'Église avant l'heure, hein. Mais David est un être humain, et puis il devient roi, et puis je pense que la chose la plus difficile pour un être humain, chrétien ou pas, c'est d'avoir du pouvoir et de l'utiliser en bien. On ne sait pas faire. On ne sait pas. C'est tellement difficile. Hein. On a beau dire tout ce qu'on veut tant qu'on n'y est pas, mais quand on y est et qu'on peut, c'est très compliqué. Et David tombe dans le piège. À un moment, parce que grosso modo, 5 mois de l'année, il partait à la guerre, et puis il allait s'étriper gentiment. Et puis le reste de l'année, il écrivait des poèmes, quoi. Et puis il dirigeait le pays, quoi. C'était comme ça qu'il partageait son emploi du temps. Et puis cette année-là, il se dit quand même, ça fait 20 ans que je suis roi, ça fait 30 ans que je me bats, j'ai étripé assez de monde, j'ai bien mérité un peu que les autres me servent. Et il envoie son armée se battre avec les Ammonites. Là. C'est pas les champignons, hein, non, mais c'était des gens avec qui il s'était fâché. Et puis lui, qu'est-ce qu'il fait? Il reste à Jérusalem. Et qu'est-ce qui se passe? Il s'embête. Hein, il tourne en rond comme un cochon malade. Comme on dit. Il ne sait pas quoi faire. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas à sa place. Il a été créé pour servir comme tout le monde. Et là, il est en train de se faire servir. Il y a des gens qui meurent pour son royaume, qui se battent pour lui, qui lui tournent en rond. Hein, et vous connaissez l'histoire, bah, comme il ne sait pas quoi faire, il monte sur le toit, il voit une belle femme. Et comme il est roi, hein, il avait déjà plusieurs femmes. Ce n'est même pas un problème de polygamie. Hein. Ce n'est même pas qu'il redevient comme un jeune homme et qu'il se dit, cette femme-là, il faut que j'aille avec ma mandoline sous sa fenêtre, chanter une chanson. Peut-être qu'elle va tomber amoureuse de moi. Non. Il s'est dit, mais en fait, je suis roi. Ce peuple m'appartient et je peux faire ce que je veux. Il envoie des gens chercher la femme. C'est sordide, hein. Imaginez, vous êtes en train de faire votre ménage, le mari est au boulot, il est en train de risquer sa vie pour ce roi. C'est un gars extraordinaire, Uri, c'est mon meilleur ami en ce moment. Je l'aime beaucoup. Je suis très fâché avec David. Et là, tout d'un coup, le ménage, ça fait déjà un mois qu'il est parti, quand c'est qu'il va rentrer, est-ce qu'il va envoyer une lettre? Ils sont mariés depuis pas très très longtemps, ils sont amoureux. On frappe, il y a deux bonhommes qui sont là, suivez-nous, le roi vous demande. Et puis on l'amène, et puis voilà, elle se retrouve enceinte. Ça s'appelle un viol. Mais c'est David, celui qui a écrit les psaumes, qui est dans la Bible, c'est un mec bien... Non, il est passé complètement, complètement à côté. Hein. Et puis, parce que le mal entraîne toujours le mal, là, il a mis le doigt dans un engrenage terrible. Lui, il pensait, voilà, c'était juste pour me distraire, elle rentre chez elle, et puis on n'en parle plus, quoi. Il n'y avait pas l'ADN à cette époque-là, les experts n'étaient pas là, on ne pouvait pas retrouver. Sauf qu'elle est enceinte, et le mari est à la guerre, puis la guerre dure, il ne rentre pas. Et là, il commence à manigancer dans le mal un truc de fou furieux, quoi. Ça ferait un film d'horreur aujourd'hui, bien fait, hein. T'imagines, il fait rentrer le mari, il fait une fête pour lui, pour qu'il retourne dormir chez lui, et comme ça on pensera que c'est lui le père. Et cet homme Uri, qui lui, il est resté sur l'idée que le gars David, là, c'est un gars pour qui on est prêt à mourir. Et puis mes amis avec qui on se bat, là, l'honneur, ça veut dire quelque chose pour nous. Il ne comprend pas pourquoi on le fait rentrer, pourquoi c'est lui qui doit porter le message, mais il est obéissant, il le fait. Et puis là, après l'avoir bien fait manger et boire, David lui dit « Ah ben c'est super, t'es mon pote, t'es un grand guerrier, va dormir chez toi. » Et l'homme, il dit « Non. Ceux qui se battent pour l'Éternel, ils dorment par terre là-bas, à la dure, en train de camper dans la ville qu'on est en train d'assiéger. Et moi, j'irai dormir avec ma femme. » Putain, elle était super belle, hein. C'est une des plus belles du royaume. Hein. Et il couche sur les marches du palais. Et là, David se dit « Eh zut, ça marche pas, mon plan. » Je ne sais pas pour vous, moi je me retrouve chaque fois que j'ai voulu manigancer un truc et puis que ça, on s'enfonce et ça ne marche pas. Et on a un petit truc et puis on a menti un peu, puis après il creuse. Hein. Et là il le fait encore boire, etc. Et l'autre il est incorruptible. Il ne retourne pas chez lui. Et là il passe une étape de plus. Il lui donne une lettre à remettre au chef de l'armée et dans cette lettre il y a écrit « Débrouille-toi pour qu'il meure ». Il va se faire assassiner et c'est lui qui porte l'ordre de se faire assassiner. Tout gentil, il fait ça pour David, il est tout content. Vous imaginez l'horreur? Et effectivement, il se fait assassiner. On organise les choses pour qu'il meure. Et David se dit, ah, super, voilà, ça marche. Je suis le roi, j'ai pu le faire. Et là, il y a cette phrase qui est mise, hein, vous connaissez. Ce que David avait fait des plus fortes mains à l'Éternel. Des plus fortement à l'État. Le pays était plein de gens qui faisaient ça partout, les rois faisaient tout ça, je veux dire, le monde fonctionne comme ça. Mais là, lui, c'était différent, il avait une autre compréhension, il se connaissait la grâce, il connaissait Dieu, il connaissait plein de choses. Donc il attend que le deuil soit passé, il fait venir la femme, il la récupère, tout finit, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Non. Et là, ça va être le début d'un scénario horrible. Le gamin va mourir, etc. Et ça va provoquer qu'un des fils de David va violer sa sœur, qu'un autre de ses fils va coucher avec toutes ses concubines à la vue de tout le monde sur le temple, qui va devoir ça. C'est la fin du royaume, ça va se diviser, ça va éclater, ça va se payer, mais cher. Ouais. Maintenant, imaginez les gens qui, eux, naissent dans la situation de crise. Hein. Il y a Absalom qui est là, qui veut tuer son père qui s'enfuit, etc. Et puis, il faut chercher des solutions. Il ne réalise pas. Là, on est en train de payer l'ardoise de ce qui s'est passé 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tôt. Et ce principe, il est vrai tout le temps. L'homme pense qu'il est libre. Alors, on a une mesure de liberté dans le fait qu'on peut choisir entre plusieurs situations, une liberté relative, hein. Ce qu'on doit absolument comprendre et qu'on ne veut pas comprendre, c'est que si j'ai la liberté de choisir entre deux choses, je n'ai pas la liberté de choisir les conséquences. David, individuellement, il va être pardonné complètement. Ces psaumes, ils sont toujours dans la Bible, on les chante toujours, on les lit toujours, Dieu l'aime, et parfait. Hein. Mais les conséquences, elles sont restées. Si on regarde dans l'histoire, je prends l'histoire de la France, quand dans les années 60-70, on ne savait pas, parce qu'il y avait beaucoup de travail, on était très riches, tout marchait bien, l'économie flambait, on avait trouvé le pétrole, on avait des idées. Balayer les routes, répandre le goudron sur les routes, faire les trucs, ça n'intéressait aucun Français. Hey, on a les petits Algériens, on peut les faire revenir. En plus, vous savez quoi? On peut les payer 10 fois moins cher, on les stocke tous ensemble entre 4 palettes, ils disent rien. Mais c'est génial! On devient riche. Le même calcul avait été fait avec l'esclavage quelques siècles plus tôt. Hein. Parce que dans le monde où on vit, le mal paye. Les méchants s'enrichissent. Les forts gagnent sur les faibles dans un premier temps. Et ils peuvent mourir riches dans leur gras tout contents. Ça marche. Hein. Les gens qui ont monté des fermes sur l'esclavage, des immenses propriétés, ce qui a fondé la richesse des États-Unis, en utilisant l'esclavage avec l'aide des protestants, c'était génial, hein, quel bel un truc ensemble. Hein. Y a des générations qui se sont endormies en lisant leur Bible tout contents, bien dans leur lard, tranquille, avec des esclaves. Aujourd'hui, on nous dit, ouais, les Noirs, ils se révoltent dans les banlieues. Ouais, ils se révoltent. Oui, c'est les arrière-petits-fils qui paient la facture. C'est toujours comme ça. À plus ou moins, on a allumé la mèche et on dit « Ah 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 !» Quand ça pètera, je serai mort. Ouais, effectivement, mais après, il faut régler la facture. Hein. Et ça, l'histoire se répète, se répète, se répète, se répète, et on n'en tient pas compte. Et on essaie toujours d'éteindre le feu, là, au dernier moment, quand ça a déjà explosé, et on ne réalise pas, on est encore en train. Hein. Au moment où je vous parle, on prend toutes les richesses de l'Afrique pour que des gens s'enrichissent, on spécule, etc. Et puis tout d'un coup, on dit, ils viennent chez nous, quelle horreur hein. Hey, ils viennent chez nous, ça fait quelques centaines d'années qu'on leur pique tout, qu'on les fait crever de faim, que les ethnies sont comme ça, on coupe les pays dans ce sens, on met des dictateurs, on les défait, on les enlève, on vend des diamants, on revient, on repart, on leur vend nos sous-marins, maintenant on veut leur vendre Internet. Et après, ils veulent venir chez nous, nous les chrétiens. Hey. Ce qu'un homme sème, il le récoltera. On a semé le vent, on récolte la tempête. Ça remonte à quand? Ça remonte à l'époque où on a choisi de penser comme Lucifer. Mieux vaut régner sur l'enfer que servir au paradis. On ne peut pas utiliser une technique de l'enfer sans créer l'enfer. Ce n'est pas possible. Chaque fois qu'un dirigeant d'église décide pour le bien des brebis d'utiliser l'autorité, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare l'enfer dans son église. Alors peut-être que lui, s'il est musclé, le temps de sa vie, ça va tenir. Et puis après, on dit, oh, les gens sont révoltés dans les églises, ils n'y vont plus, ils ne veulent pas se soumettre. Ben oui. Alors peut-être que celui qui a allumé la bombe, il n'est plus là, il est mort. Et peut-être c'était un chrétien authentique, il est au ciel, David aussi, il y a plein de gens comme ça. Mais on doit réfléchir à ça, en tant que parent, dans les couples, en tant qu'enseignant, dans la politique, dans tous nos domaines. Ce qu'on sème, on le récolte. Jésus est venu, c'est le seul qui était différent. Il n'a pas fait des discours, il n'a pas expliqué une autre politique, il a vécu différemment. Il faisait ce qu'il avait à faire, il servait les gens. C'était pas un mou, c'était pas, il se laissait pas faire, il était pas, il est rentré dans le temple, il a tout cassé avec un fouet, il a mis les gens, il était viril, c'était, hein, c'était pas une espèce de petit efféminé qui disait, faites comme vous voulez, je veux pas vous déranger, non. Il était fort, les gens avaient peur de lui, il admirait, mais, parce qu'on comprend, on peut pas l'acheter ce gars-là. On va le tuer peut-être, mais on peut pas lui faire faire ce qu'il veut pas faire. Ça, c'est la force des gens qui marchent dans la liberté et dans la lumière. Il y a un prix à payer, et la plupart des gens qui ont marché sur ces voies-là sont morts de mort violente avant d'avoir atteint l'âge de la retraite. Je ne vais pas citer les noms, mais il y en a beaucoup dans l'histoire. Maintenant, de temps en temps, dans l'histoire, il y a très peu d'exemples. Hein. Ça peut être désamorcé quand même. On peut couper la mèche. On a un bel exemple historique, c'est celui d'Angleterre. L'Angleterre, où au moment de la révolution industrielle, il y avait l'exploitation, comme dans tous les autres pays, des pauvres par les riches, etc. Et il n'y a pas eu une révolution comme en France. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un immense réveil qui a fait que Dieu est intervenu là-dedans et ils ont évité cette crise-là. Donc, je ne sais pas, il y a peut-être d'autres exemples historiques, je ne suis pas un spécialiste d'histoire, je ne les connais pas, il y en a très peu en tout cas, s'il y en a. Quoi, hein. Mais on peut désamorcer ça. Et comment? Par le pardon, de la part de ceux qui sont encore vivants, qui sont là et qui ont abusé, se repentir, le dire, demander pardon, réparer quand c'est réparable, c'est pas souvent réparable, mais en tout cas l'intention de le faire. Et puis par ceux qui ont été pris dans ce système-là en refusant d'être une victime de ça. Parce que ce que je dis ça là ce matin, ça n'enlève à rien le libre arbitre individuel des gens. Le fait que mes arrière-grands-parents aient été exploités, c'est une injustice, j'en souffre, mais ça ne m'oblige pas à devenir terroriste, individuellement. Ça serait logique dans le système où on vit, puisque les gens, quand ils étaient plus forts que moi, ont abusé de moi. Si je peux maintenant, d'une façon, abuser d'eux en devenant plus fort qu'eux, pourquoi ça serait injuste? C'est un juste retour des choses. Pour quelle raison, pendant quelques centaines ou milliers d'années, on aurait exploité l'autre moitié ou les deux tiers du monde pour nous vivre dans la Grèce, et on trouvait normal qu'eux meurent de faim, et maintenant si c'est eux qui vivaient dans la Grèce et que nous, on meurt de faim, dans la Grèce, pas les Grecs, hein, l'art. Il y aurait quoi d'injuste là-dedans? S'ils sont assez forts pour le faire, ils feront, c'est logique, hein. Et c'est pas la main de Dieu qui fait qu'on est béni parce qu'on a des valeurs, parce que... Non. C'est juste qu'ils avaient des arcs, on avait des canons. Ils avaient des pierres, on avait des fusils. Ils avaient des boucliers en bois, on avait des armures. C'est simple, hein? Et on était bénis par Dieu. Hein? On bénissait les canons. Moi, j'étais contacté par un gars qui a, ici en Suisse, qui a des entreprises, il exploite ses employés, etc. Il avait acheté un nouveau complexe, il voulait que je vienne prier pour bénir le complexe. Hein? J'ai refusé, il m'a rappelé. Mais je peux vous donner plus si vous voulez. Heureusement, c'était au téléphone. Hein? Mais c'est le même principe. C'est la même chose. Vous avez entendu que les grands dominent, mais moi je vous dis, voilà, je suis venu pour donner ma vie, pour servir. Ça ne veut pas dire être idiot, se laisser prendre ses affaires, pas fermer ses maisons, encourager le vol. Ça n'enlève pas la responsabilité de chacun. Chaque individu est libre aussi de réagir au mal par le bien. Hein. On reste libre, donc ce n'est pas une fatalité. Ça n'excuse rien du tout. Ça explique beaucoup de choses. Et puis surtout, ça nous donne à nous la responsabilité en quoi aujourd'hui je suis en train d'allumer un feu qui va exploser dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 100 ans. Est-ce que je vis comme Christ? Ben non, évidemment. Mais comment je pourrais vivre plus comme lui? Mieux vaut servir au paradis que régner en enfer, moi je vous le dis, hein. Parce qu'il n'y a, pas de paix, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de joie. Même avec toutes les possessions du monde en enfer, on n'est pas heureux, on n'est pas satisfait. Parce que d'abord, on n'en a pas assez. Hein. Vous avez jamais posé la question, pourquoi des gens qui ont des milliards et des milliards de milliards veulent encore faire mourir des milliards de gens pour avoir des milliards en plus? Ça n'a pas de sens. Non, je comprends celui qui n'a pas de voiture qui en vole une. C'est pas bien, hein, mais je comprends. Il n'a pas de voiture, l'autre a une grosse voiture, il la veut. Mais les gens qui ont déjà tout, mais plus que, il n'y a rien qu'ils ne peuvent pas se payer, et ils vont quand même stocker leur blé 1 mois de plus pour gagner des milliards de plus, pour en faire quoi? Ça, c'est l'enfer. Ils sont les premières victimes, ils sont les premiers esclaves. Et puis en plus, on ne dort jamais tranquille. Parce qu'en enfer, si je suis en haut, il y en a toujours un derrière qui veut ma place, forcément. Je peux faire confiance à personne, je peux marcher qu'en rasant les murs, parce que... j'ai toujours me retrouvé avec un tournevis entre les omoplates. C'est l'horreur. Au paradis, on n'a pas besoin de regarder derrière. On peut regarder les gens. On sait, non, personne ne va me planter un couteau dans le dos. Moi, j'aime me retrouver avec vous. Je m'en moque que ce soit ici ou ailleurs. Parce que je n'ai pas peur de prendre un coup de couteau dans le dos. Je sais que je ne suis pas parfait. Je sais que je fais des erreurs. Mais... vous le savez, et puis vous avez décidé de m'accepter comme je suis, et puis j'essaie de faire pareil avec vous, etc. Et, ah, ça change du reste du monde où on est au travail, on est à l'école, et là, et ouais, il faut toujours surveiller ses arrières, parce qu'il dit que c'est mon ami, mais qu'est-ce qu'il veut en vrai, hein? Non, et moi je suis venu pour donner ma vie, c'est Jésus qui parle, pas moi, hein, et servir. Ça bascule. Alors comment ça s'applique, honnêtement, je ne sais pas. Si j'avais des solutions, ce serait super. Mais je trouve voilà, cette réflexion entre comment l'attitude de David a amené le malheur sur sa famille et son pays, et comment ce qu'on vit, c'est la conséquence d'eux, et puis comment je vis moi ben, dans ma famille, dans mon église, dans mes relations, dans mon travail. Il y a beaucoup de choses à réfléchir. Alors, en fait, ce matin, je vous pose plus de questions que je n'amène pas de réponse, mais si, un peu. On a besoin de la vie de Christ, on a besoin du pardon, on a besoin de la grâce. Et puis, réfléchissons avant de dire des bêtises. J'étais très énervé avec des amis chrétiens qui, j'imagine qu'ils sont chrétiens, qui peuvent dire des choses hein, genre ouais, dommage que les bateaux n'aient pas pu se couler en Méditerranée, ça en ferait moins chez nous. Quelle horreur, hein. Après, ils vont parler de l'amour de Dieu. Alors, bien sûr que pas n'importe quoi, n'importe comment, etc. Mais c'est horrible. Des choses pareilles. Mais parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on perd le contrôle. Mais au paradis, personne n'a peur de perdre le contrôle. Ce n'est pas un souci. Hein? Parce que l'amour fait qu'on est soumis les uns aux autres et qu'il n'y a pas de risque. En enfer, perdre le contrôle, c'est l'enfer. Mais c'est comme ça que ça marche. Alors Seigneur, on te demande de donner de la sagesse dans toutes ces choses-là, mais surtout de nous apprendre à gérer ce que tu nous as confié avec amour, en servant, à être volontairement au service de ce que tu as placé à côté de nous, et surtout à être à ton service, parce que notre seule liberté, c'est de te suivre par amour, de te suivre librement, parce que tu as choisi de donner ta vie pour nous, et nous voulons vivre de cette vie-là, vivre dans cet échange. Nous voulons être serviteurs dans ton royaume plutôt qu'empereurs dans un autre. Merci de venir faire ce travail en nous. Merci de nous éclairer, de nous conduire et de nous montrer comment c'est possible aujourd'hui dans nos situations, là où nous en sommes. Merci encore pour tous les témoignages de ton action qu'on a entendus aujourd'hui, qui nous rappellent que dans un monde corrompu, méchant, tu agis encore, tu touches des cœurs, tu prends soin de tes enfants, tu protèges, tu as un plan et c'est toi qui es le vainqueur. C'est toi qui as le dernier mot parce que tu sais exactement où ça va, comment ça va et puis on peut se reposer en toi. Tu es celui qui prend nos inquiétudes et nos peurs et puis celui qui nous pardonne quand nous tombons, quand nous faisons les mauvais choix. Merci pour cet amour, pour cette grâce, pour ce pardon. Et que nous puissions y progresser ensemble, individuellement et puis en tant que communauté.